לשם ייחוד קודשה בריחוס שינתה. היא une raison pour le cours en dédica
le
Lumismat le Poitema Kodem Kol on taille ben on a fait le Poitema le Poitema le Abdil ben a Chaim la Métine le Lumismat
Chaim ben Azer
יאו בן זרה
נתן
דוד בן זרה
נתן וזיגל בת
זרה ולהילו נשמת מורבי רבי שמעון בן עיסא איפה השלמה? איפה השלמה? איפה השלמה? איפה השלמה? טוב, שווה כאילו נשום דנז אין פריוד כנפל ימי בין המצרים שיתחת כזור עוד בובואר ou vous revoir pour certains. Et dans cette période de Ben HaMetzarim, nous signalons une période qui, en fait, traite de la destruction, alors qu'au départ, elle était censée, cette période, être une construction. Les fêtes que nous fêtons aujourd'hui, le mois de Tishrei ne devait pas être au mois de Tishrei. Tout a été déplacé à cause de la faute du Vaudor et à cause de la faute des explorateurs. Rosh Hashanah devait être le 17 Tammuz. Yom HaKippurim devait être Tu Béav. Sukkot devait être le mois de Elul. Et au mois de Tishrei, il restait une seule fête. C'était Simchat Torah. Et à cause de la faute, tout a été déplacé, reporté en dehors de son temps. Ça veut dire que les fautes que nous commettons, elles ont une influence, ces fautes-là, sur le temps, sur l'espace et sur l'homme. Et la réparation, bien entendu, c'est le retour vers l'ordre. Ou bien le retour de l'ordre dans le désordre. Et il y a deux manières de voir la mise en place de l'ordre. Il y a une manière qui est de l'extérieur vers l'intérieur. Alors, imaginons que le monde, c'est une création de l'infini béni soit-il, qui est sortie vers le dehors. Donc c'est comme si Akadosh Baruch Hu s'était éloigné le plus loin possible. Comme une femme qui accouche d'un bébé, elle le sort de sa partie inférieure et elle est éloignée le bébé de son corps avant de le ramener. Bien, la création du monde, c'est exactement la même chose. Il y a un éloignement. Pour revenir vers la maman, pour que la maman revienne vers le bébé, eh bien, on doit aller de la partie la plus superficielle, la plus lointaine, pour revenir à la source. C'est clair ce que je dis? Si on prend l'alphabet hébraïque, le Aleph, c'est la source, la dernière lettre, le Tav, c'est le résultat. Donc la Géoula, c'est le retour de la dernière lettre vers la première lettre. Ou bien, la première lettre éclaire la dernière, mais c'est la même chose. On appelle cette forme de Géoula Sod Sastrak. Comme un sifflement en hébraïque, Strok, siffler. Donc les sages nous parlent d'une Géoula du style Sastrak, c'est-à-dire du style Taf, Re, Sin, Kouf. De la dernière lettre, on revient vers le Aleph. Vous comprenez? Et la dernière lettre étant le Tav, si vous savez écrire les lettres hébraïques, vous savez que dans le Tav, il y a aussi un pied à gauche. Et à l'intérieur de ce pied, au bout de ce pied, il y a encore une petite virgule vers l'extérieur. On appelle ça en hébreu Psi'a le Bar. Donc la dernière lettre, la lettre Tav, elle n'est pas seulement la dernière, mais même son pied sort vers l'extérieur. C'est très 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 loin. Et donc, À chaque fois que nous parlons des forces négatives dans ce monde, eh bien on parle, entre guillemets, de cette lettre Tav lorsqu'elle n'est pas liée avec les bonnes lettres. Par exemple, Mavet, la mort. Ça se termine par Tav, mais parce qu'avant il y a un Mem et un Vav, bien c'est tirer toute la lumière divine vers le néant, face de Shalom. Et donc cette lettre a pour valeur numérique 400, la lettre Tav, et c'est pour ça que lorsque Esav vient vers Yaakov, Yaakov a peur de lui parce qu'il a 400 hommes avec lui. Et ces 400 hommes, en réalité, c'est la lettre Tav, et si vous regardez bien ce qui est écrit là-bas, Yaakov, Vaïra Yaakov, Vaïesterlo. Il a peur, et Rashi sur place dit il a peur de mourir et il a peur de tuer. Donc il y a une notion de mort là-dedans. Alors que si vous associez cette même lettre Tav à d'autres lettres, le Aleph est le même, ça devient Emet. Et si vous enlevez le Aleph, ça fait Met. Donc il y a toujours un problème avec cette lettre. Et la Géoula, c'est lorsqu'on ramène cette lettre vers le Aleph. Et quand on ramène cette lettre vers le Aleph, on l'associe au Aleph, ça devient Et. Et, c'est la racine du mot lettre, les lettres. Ata, en araméen. Les lettres hébraïques s'appellent Otiyot. Et qu'est-ce que ça veut dire Otiyot en hébreu? Pas des lettres, ça c'est votre traduction en français. C'est pas seulement des signes, c'est un verbe, venir. Faire venir. Ata, mirivez votre code. Akadosh Baruch Hu vient, Ata, Otiyot, mirivez votre code de degré supérieur de sainteté. Donc qu'est-ce que c'est que les lettres hébraïques en fait? Ce sont des véhicules, comme des verres vides, dans lesquels on met de l'énergie, et ce sont des lettres qui apportent l'énergie d'un endroit à un autre endroit. Et donc faire venir quelque chose, dans la Gemara, Ata Rabbi Yose. Rabbi Yose est venu. Ata, Otiyot. Donc si j'utilise les lettres comme il faut, je peux utiliser les lettres hébraïques comme des véhicules dans lesquels je vais mettre des énergies. Et cette énergie, je vais déplacer d'un endroit à un autre endroit. Par exemple, si j'ai envie de réjouir quelqu'un, eh bien j'utilise des lettres. Et avec ces lettres, je vais former des mots. Et à l'intérieur de tous ces mots, de ces phrases, je vais injecter une simcha, quelque chose de bien. Et donc, je vais utiliser les lettres comme des véhicules par lesquels je vais faire passer à la personne sans la toucher, comme je suis en train de faire maintenant. C'est un miracle. Je suis en train de rentrer dans vos corps, dans vos âmes, dans vos têtes, seulement avec des mots et des lettres. C'est rien de plus. Et c'est très fort. Et encore, ça c'est dans un langage étranger, en français, mais en hébreu, c'est beaucoup plus fort. Parce que en parlant en hébreu, je vous injecte des degrés de vie. Et c'est ce qu'on appelle Ata Mirivevot Kode. Plus tu parles en hébreu, plus la vie s'intègre. Moins tu parles en hébreu, plus tu sors un petit peu des vagues. Qu'on appelle la Shon Avodah Zara. Donc, en l'occurrence, même le français, l'anglais, l'espagnol, c'est pareil. Donc, ça c'est de parler plus l'hébreu, surtout le Shabbat. Rashi, Shabbat, parler l'hébreu, uniquement. Justement parce que c'est un jour de Kodesh, il voulait véhiculer toute la lumière qui se trouve Shabbat dans ce monde. Donc, il utilisait le langage divin, la Shon Kodesh, la parole du code pour faire venir ces énergies. C'est pareil. Il y a dans l'hébreu moderne, 90% c'est du code de la Torah, c'est les mêmes lettres. Vous comprenez que maintenant, quand Chas v'Shalom, quelqu'un fait une erreur, et cette erreur est écrite dans la Torah, par exemple la faute du premier homme, par exemple la faute du Vaudor, par exemple la faute des explorateurs, Quand la Torah écrit cette fosse, elle va utiliser des lettres. On est d'accord? Vayar, Ha'am, Ki, Boshef, Moshe, Laredet, Minahar. Donc, lorsque le peuple a vu que Moshe était en retard et qu'ils ont fait la faute du veau d'or, par exemple, il y a toutes les lettres utilisées pour écrire cette phrase. Maintenant, c'est devenu quoi? Des véhicules, mais pour le mal. Et donc, il va falloir maintenant que je corrige le mal qui a été causé. Et donc, les lettres hébraïques ont été, à chaque fois que nous avons fauté, endommagées. Et non pas seulement les lettres ont été endommagées, mais la personne qui a causé cette faute, les lettres qui ont été endommagées, les lettres de la faute, vont s'incruster dans ses os. Comme ça dit Rabbi Nachman de Breslev, il va falloir faire un travail pour sortir des os de la personne qui a fauté l'énergie négative de l'être. C'est un travail, c'est pas facile. Avnotehem chakukim be'atmotam. Donc les fautes sont liées aux os. Or en hébreu, les os c'est le fondement, atmout. Ça veut dire que quand on faute, il y a quelque chose de très très fort qui s'incruste à l'intérieur de nous et il faut faire un travail pour les sortir. Alors imaginez-vous maintenant que les lettres, elles se plaignent, elles viennent devant Akadosh Baruch Hu, elles disent « Mais on est les lettres du Kodesh, comment se fait-il que les hommes viennent détériorer ces véhicules ?» L'homme vient prendre des voitures, des véhicules d'Akadosh Baruch Hu, des lettres, chacune elle a une forme à elle, parce que la lumière qui circule à l'intérieur de cette lettre est différente. Donc la forme des lettres, c'est la forme de la circulation de la lumière. C'est très secret, les lettres. Et ces lettres viennent se plaindre et elles disent à Kadosh Baruch Hu, il faut que tu fasses quelque chose, ça ne peut pas continuer comme ça. Et à Kadosh Baruch Hu leur répond, étant donné que vous êtes le Aleph Bet, l'alphabet, le Aleph Bet, eh bien je vais vous consoler. Et ça a donné naissance à Menachem Aleph Bet, Menachem Av. Qu'est-ce que c'est Menachem Av? Pourquoi on appelle ce mois Menachem Av? C'est pas seulement qu'on est venu demander une consolation le mois de Av, mais maintenant vous avez compris, c'est Menachem Aleph Bet. C'est-à-dire que ce mois-ci a une force de consoler le Aleph Bet hébraïque qui a été endommagé par nos fautes durant toute l'histoire. Donc nous avons un mois avec une spécificité intrinsèque, intérieure, qui peut corriger les mots, M-A-I-X, par les mots, M-O-T-S. Donc si vous utilisez votre langage ce mois-ci à bon escient, eh bien, vous pouvez corriger tous les mots, tout le mal causé par les mauvaises combinaisons de lettres qui se sont combinées au moment des fautes. Donc c'est un mois extraordinaire. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Av. Pas seulement parce qu'il est le papa, mais qu'il est le Aleph Bet. Et qu'est-ce que c'est que le Aleph et le Bet par rapport à la puissance de l'être? Eh bien, les sages nous disent que Aleph, ça vient du mot Ulpan. Donc c'est l'apprentissage. C'est pour ça qu'on appelle le Aleph. Aleph en hébreu veut dire enseigner. C'est Alper. Donc Ulpena. Et le Bet, c'est la maison. Eh bien, la maison, c'est la femme. En bayt, en bet, c'est la isha. Et le aleph, c'est la chokhma, c'est le papa. Donc le aleph bet, c'est papa et maman. Et qu'est-ce que ça veut dire papa et maman? Ça veut dire tout simplement deux niveaux très 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 supérieurs qui viennent corriger tout le reste. On appelle ça en hébreu la chokhma et la bina. Le aleph, c'est la chokhma et le bet, c'est la bina. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces deux degrés? Eh bien, on va corriger tous les enfants. Les enfants, ce sont les lettres qui vont venir après. Le A, le C. Donc, vous comprenez que la Géoula, de cette manière-là, c'est de l'extérieur vers l'intérieur. On va vers le plus proche, on vient du plus loin. C'est simple. on vient de la lettre Tav et on essaie de revenir vers la lettre Aleph, initiale. Si vous avez compris cela, vous savez que dans la Gemara, dans le traité de Rosh Hashanah, à la page 11, il y a une discussion entre deux sages. Quand est-ce que le monde s'est créé ? D'accord ? Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua. Alors, Rabbi Eliezer nous dit que le monde s'est créé à Tisré, alors que Rabbi Yehoshua nous dit que le monde s'est créé à Nissan. Mais moi, ça me fait rire. Parce qu'au moment de la création du monde, il n'y a ni Tisré, ni Nissan. Il n'y a rien, il n'y a même pas de temps. Alors, de quoi ils parlent, ces deux sages ? Ils se moquent de nous ? Mais non. L'un d'entre eux nous dit que pour lui, la création du monde vient pour la réparation. Et comme la réparation de Tisré, elle est différente que la réparation du mois de Nissan. C'est en réalité deux codes. Parce que quand vous dites le mot Tisré, vous voyez que vous dites les lettres de la dernière à la première. Tisré, Taf, Tin, Res, Yud, ça monte. Alors que quand vous dites Nissan, Nun, Tamer, et ça va vers la fin. Donc qu'est-ce que c'est la discussion entre ces deux sages ? De quelle manière il faut corriger le monde ? Est-ce qu'il faut corriger le monde de l'intérieur vers l'extérieur ? C'est-à-dire je vais prendre la lumière initiale et je vais la jeter, la projeter sur les autres lettres pour les guérir ? Ou bien, comme Rabbi Eliezer, je vais prendre la dernière lettre, qui serait, je vais revenir, essayer de revenir vers le Aleph. C'est plus compliqué ou c'est plus clair, ça dépend. Exactement. Hanouka, on retrouve la même machloket. Est-ce qu'on va de toutes les lumières en diminuant ou est-ce qu'on rajoute chaque jour une lumière? D'accord? Alors, tu as dit c'est plus compliqué, mais Dieu d'émaner la lumière. Ok. Mais nous avons les sages, les petits-fils de Rati qui nous disent Ellou ve Ellou, divrei Elohim Chaim. Ailleurs. Et Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua ont raison tous les deux. Mais ça dépend de chacun de nous. Comment est-ce qu'il voit, comment est-ce qu'il appréhende la tshuva ? Est-ce que pour vous la tshuva c'est d'apporter une lumière divine de l'ordre du Aleph et de la diffuser dans vos vies ? Ou bien, plus classique, vous allez de la dernière lettre, c'est-à-dire de vos fautes les plus graves, et vous essayez de revenir tout doucement vers le Aleph. Il y a deux manières de faire. Comprenez ? Ou bien tu injectes une grande lumière du Aleph sur le reste, ou bien de toutes les lettres, tu retournes vers le Aleph. Que nous avons compris au niveau de la Tshuva jusqu'à aujourd'hui, c'est plutôt de revenir vers le Aleph. C'est la même chose, mais en fait, tu fais le travail à l'envers. C'est-à-dire, ou je vais vers l'éternel, entre guillemets, ou bien je fais en sorte que l'éternel vienne vers moi. D'accord ? Alors, au niveau du sens premier de la Torah, tout le monde parle d'aller vers l'éternel. Et les kabbalistes nous disent que c'est pas comme ça que ça marche. Tu peux pas aller vers l'éternel, parce que tu ne peux pas le définir, donc tu ne peux pas le limiter ni dans le temps, ni dans l'espace, ni dans rien du tout. Donc, où est-ce que tu vas ? Et le mieux, d'après eux, c'est de faire en sorte d'être un bon cli pour être rempli par la lumière du Aleph. Et donc, ça s'appelle la Kabbalah. Et c'est pour ça qu'on appelle la Kabbale, quelle Kabbalah ? Parce que je reçois la lumière du Aleph. Je n'ai nulle part où aller, je n'ai qu'à faire une seule chose, m'élargir, élargir mes ustensiles, élargir mes volontés, élargir mes désirs, pour faire en sorte que la lumière du départ vienne me guérir. Donc il y a ou le Aleph qui vient vers le Bet, ou le Bet qui essaye de découvrir le Aleph. Vous êtes avec moi ? Et donc vous avez deux sortes de Géoula. La Géoula qui va utiliser les lettres du Aleph vers le Taf, et la Géoula qui va utiliser les lettres du Taf vers le Aleph. Donc, si je vais du Aleph vers le Taf, je fais Aleph, Ve, Gimel, Dalet, Hei, Vav, et ça c'est au niveau de l'intériorité, c'est ce qu'on appelle une lumière directe. Mais si je fais le travail à l'envers du Taf et j'essaye de revenir, je suis dans une lumière qui revient, Or Choser. Donc vous avez un Or Yassar et un Or Choser. Et ce sont des notions très 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 puissantes qui nous expliquent en réalité ce qui s'est passé au niveau de la création du monde. Et maintenant je rentre dans le vif du sujet. Le Midrash nous dit qu'au moment de la création, Akadosh Baruch Hu a regardé, a prévu le monde, et dans cette prévision du monde, prévoit, il a vu en avant, et il a vu un temple de Jérusalem construit. Et après, il a vu détruit. Et après, il a revu construit. Comme ça, nous raconte le Midrash. C'est quoi ce charabia ? Eh bien, le Midrash n'est pas un charabia, il vient nous expliquer l'ordre du monde. C'est-à-dire qu'il nous cite le système avec lequel le monde fonctionne. C'est comme ça que le monde fonctionne. Je vais vous le dire clairement, à chaque fois dans ta vie, tu vas avoir une idée qui va être pleine, belle idée, je vais me marier. Au moment du mariage, tu vas commencer à te casser la figure. Ça c'est le deuxième temps, le temps d'écrit. Et un petit peu plus tard, quand tu vas commencer à reprendre les rênes, tu vas reconstruire à l'intérieur de ton mariage la propre destruction qu'il y a eu. Donc n'ayez pas peur, ça fait partie du rythme de la vie. C'est comme ça. Tout vous paraît beau au départ, quand vous rentrez dedans, ça commence à se casser la gueule, et il faut faire un travail pour reconstruire. Alors moi je vous pose une question simple, à quoi ça sert ce truc-là ? Puisque j'étais déjà bien au début, on m'a juste cassé au milieu pour que je sois bien encore une fois. Oui. J'étais déjà bien !
Mais on va dire que le temps après.
Oui, ça continue, mais c'est à un autre étage. C'est-à-dire que nous sommes en réalité dans une spirale. Et chaque fois que tu montes un étage, tu vas casser la figure au nouvel étage. Et il va falloir que tu te reconstruises au nouvel étage. Et ainsi de suite, tu vas atteindre une très très grande construction. Et après, ça va encore une fois te faire monter à un autre étage et tu vas te casser encore une fois la gueule.
Mais de monter,
exactement. Et si tu ne suis pas ce rythme-là, tu vas augmenter une seule fois dans ta vie. Et tu vas rester en stagnation dans un certain niveau que tu as cru atteindre un jour dans ta vie. Et donc tu auras peur de continuer à évoluer, et comme le monde lui avance, toi tu vas être dans un recul. Donc n'ayez pas peur, je suis là pour vous consoler, ça fait partie de notre construction. Et même le temple de Jérusalem, c'est comme ça qu'Akadosh Baruch Hu l'a dit. Alors je n'ai pas répondu à ma propre question, quelle est la différence entre la construction du départ et celle d'après ? Eh bien, j'ai volontairement omis de vous rajouter une phrase dans le Midrash, c'est que la deuxième construction, d'après la destruction, elle est plus forte, cette construction, que la première. C'est-à-dire, il se casse l'os pour le reformer, pour que ce soit plus dur après. Autrement dit, un vase que tu as cassé, quand tu as recollé les morceaux, il est plus solide qu'un vase qui n'a pas été cassé. Moralité, nous nous construisons par nos brisures. Et si tu ne t'es pas brisé dans la vie, tu ne peux pas te reconstruire. Donc je suis en train de vous dire que la destruction des temples de Jérusalem, c'était pour notre bien. Pourquoi faire ? Pour que justement on arrive à un degré d'éternité. Et même à l'intérieur du troisième temple, même s'il ne sera pas détruit physiquement, nous aurons des chutes et des reconstructions intérieures. Ne croyez pas que lorsque le Mashiach va venir, c'est fini, vous êtes dans une vitesse de croisière. Pas du tout. Il a fait. Jusqu'au moment où le Yetzer Hara, le grand, grand Yetzer Hara, il va falloir le manger. Tu sais qu'on va faire un repas, et on va manger dans ce repas, pas des chips, pas des pâtes, mais du Yetzer Hara. On va le manger. D'où est-ce que je le sais? La Gemara, elle nous le dit. Elle nous dit, Atid Akadosh Baruch Hu La'asot, Shrita, la Yetzer Hara. Akadosh Baruch Hu va faire une Shrita au Yetzer Hara. Pourquoi on fait une Shrita? Pour manger. Sinon, je le tue, je lui tire une balle dans la tête. C'est pas une Shrita. C'est-à-dire, quand je veux manger quelque chose, quand je veux consommer cette viande, je dois faire une Shrita. Donc, je dois faire quelque chose de rituel qui va en réalité me permettre de consommer. Donc à la fin des temps, on va consommer ce que nous, nous avons défini en tant que mal au départ. Et le mal que tu vas manger après, tu vas t'apercevoir que c'était du bien.
Le deuxième temps.
Nachon, il y avait plus de miracles, il y avait plein de choses, mais par rapport au temps et l'évolution du monde, le deuxième temple est plus proche de la Géoula, donc il est dans son niveau à lui plus élevé, même s'il manque des choses. À quoi cela ressemble? À un enfant qui est en Kita Aleph, c'est le meilleur de l'élève en Kita Aleph, et à la fin de l'année, il passe en Kita Bet. Et en Kita Bet, il devient naze. C'est le dernier. Alors, comment on va le juger maintenant? C'est le meilleur de Kita Aleph, mais c'est le moins bon au Kita Bet. Mais il est quand même en Kita Bet. Mais c'est la même chose. C'est déjà un étage supérieur. Alors, même si tu te casses la gueule à l'étage supérieur, c'est déjà supérieur. Je vous pose une question simple. Quand est-ce que la lumière divine est plus forte? Shabbat ou Motsaï et Shabbat? Motsaï et Shabbat. Maintenant, il a compris. Pourquoi? Parce que je suis à Motsaï Shabbat déjà dans le Shabbat prochain. Donc je suis déjà à un niveau plus haut, même si toi tu sens Motsaï Shabbat comme ici. Mais où tu suis? Dans un étage supérieur. Le parterre de mon voisin d'en haut est plus haut que mon plafond à moi. On est d'accord? Mais c'est comme ça la vie. Ça veut dire que n'ayez pas peur de faire des chutes. N'ayez pas peur de passer des périodes où on parle justement de cette destruction. Parce que ça fait partie de notre reconstruction. Et s'il n'y a pas de destruction, là je vais plus loin. C'est que la construction n'était pas bonne. Donc lorsque Dieu veut me donner la Torah, où est-ce qu'il va me la donner? Sur une destruction. Obligatoire. Comment s'appelle la montagne sur laquelle on a reçu la Torah? La montagne de la destruction. Har Horeb. Chorev veut dire Korban. Comment je reçois la Torah sur une montagne de destruction? Vous adressez à Sinaï. C'est pas Sinaï. Même le mot Sinaï, il est traduit dans la Gemara. Le matin Torah de Sinaï, Yarda Sina, l'Israël. La haine est arrivée. Alors laisse tomber, garde ta Torah, je suis tranquille, personne ne me hait. Non. Ça fait partie de cette destruction. Donc il ne faut pas avoir peur, c'est juste beaucoup de bruit, ça peut nous angoisser, mais il ne faut pas avoir peur. Ça fait partie du degré. Où est-ce que nous voyons ce système-là de construction première, de destruction et de reconstruction? Donnez-moi un exemple. Eh bien, je vous ai donné l'exemple du Shabbat, mais le premier jour de l'année, comment il s'appelle? Rosh Hashanah, Yom HaZikaron. Quelle est la mitzvah ce jour-là? De sonner du shofar? Ah, de l'entendre, c'est différent. D'accord? D'entendre quoi? Le son? Non. D'entendre la voix. E-V-O-I-E. Pas d'entendre le son. Pour entendre un trompettiste, je n'ai pas besoin d'attendre Rosh Hashanah. C'est-à-dire, on te demande à Rosh Hashanah d'écouter quelque chose que généralement tu n'arrives pas à entendre. Et nous, on tombe dans le piège, on se dit, ah, il a bien sonné, si Dieu veut l'année prochaine. En fait, il doit entendre une voix, un col, pas un slil. C'est très important. Donc, si tu n'es pas capable d'entendre des colotes, comment tu vas faire? Je colle à un broïm et ta colotte. L'oroïm et ta otiot et ta slilim. D'accord? Col à faire tomar le chassara, sma, de cola, l'obédiboura. On te demande pas d'écouter les paroles du Rav. Quand tu vas à un siour de Torah, tu dois entendre les paroles du Rav, ou bien sa voix, V-O-I-E. C'est ça qu'il faut être capable d'entendre. Parce que écouter un cours de Torah, tu écoutes, bla, 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 bla. Okay? Il a bien parlé, il a une bonne élocution, il s'est bien habillé, il a une belle kippa, on s'en fiche. C'est pas ça. Est-ce que tu es capable d'entendre la voix du Rav? Est-ce que tu es capable d'entendre ce qui n'est pas dit, presque? Est-ce que tu es capable d'entendre ce silence? Ça, c'est un Talmid Chacham. C'est pas celui qui entend ce que le Rav dit, c'est celui qui entend ce que le Rav n'a pas voulu dire. Et qu'il a fait exprès de s'étouffer à un moment donné, parce qu'il a dit, bon, ils sont pas prêts à entendre, donc je vais sauter cette idée. Et l'élève en question, il l'a prise au volet. Il dit, oh là là, j'ai entendu quelque chose là qu'il n'a pas voulu dire. Ça, c'est la force. Et au niveau des lettres hébraïques, c'est comme si vous étiez capable d'entendre le vide qui entre les lettres. C'est pas seulement les lettres. C'est d'ailleurs ce que fait votre œil, votre cerveau. Quand vous regardez un texte, vous croyez que vous voyez les lettres, alors que le cerveau, lui, voit les blancs. Et après, vous traduisez au niveau du cerveau comme si vous voyiez des lettres. Et même les lettres que vous les voyez à l'envers. Et c'est encore une fois changé par le cerveau. C'est quoi ce bim? Tout est obligé de se détruire, de se casser, de se briser. Regardez, à Kadosh Baruch Hu nous donne une Torah au Mont Sinaï. Dès que ça arrive sur Terre, c'est déjà deux tables. Pourquoi ça s'est cassé en plein milieu de la route, là? J'ai pas compris. Il y a une Torah, elle arrive en bas, il y a déjà deux tables. Et David Hamelech qui a compris ce secret, il nous dit dans Tehilim 62, lorsque Dieu parle 1, en code, comment ça s'appelle le code 1? Non, binaire c'est 2. Vous êtes étudiant ou pas? Okay. Lorsque Kadosh Baruch Hu parle en code 1, c'est quoi le code 1? Unitaire, mais est-ce que tu es capable toi d'entendre le 1?
Non.
Moi je suis obligé d'entendre 2. En hébreu, Achat Diber Elohim, Taim Zu Shamati. Maintenant vous comprenez pourquoi vous avez deux oreilles. Parce que tu ne peux pas écouter avec une seule oreille. Tu es obligé d'écouter la voix de l'Éternel en stéréophonie. Si tu l'entends en mono, ben, tu tombes dans la dépression. Mono, mono. C'est fini, c'est parti en cacahuète. Donc tu n'es pas capable d'entendre un. Même la Torah que tu dis, il faut que tu ailles écouter au moins deux versions, deux sens de la même explication, du même verset. Deux sens différents pour ne pas être dans l'un des sens. Sympathique. Sinon tu es dans l'indécence. C'est pas beau d'être indécent. Et donc il faut toujours écouter en double. Et donc j'ai deux sons de cloche. Et c'est comme ça que le monde évolue. Donc si je veux traduire ce deux en lettres hébraïques, c'est quelle lettre? C'est le bête. Alors que Dieu lui parle en code 1. Donc, pour entendre le 1, je dois être 2. D'où est-ce que va sortir la parole divine au Beth Amikdash? Entre les deux chérubins. S'il n'y a pas 2, tu ne peux pas entendre le 1. C'est ça le secret de ce monde. Moralité, quand est-ce que je suis capable vraiment, vraiment, vraiment de commencer à comprendre et à entendre la Torah? Quand je suis marié. Sinon, je suis encore 1. Et je ne suis pas encore dans le 2. Et c'est seulement à partir des deux que je suis, que je forme, que je peux véritablement entendre le 1. Et maintenant, je vous donne une deuxième explication au même verset de Tehilim 62 que j'ai cité tout à l'heure. Achat diber Elohim. Attends, retenez-moi. Stein, zu shamati. C'est seulement quand tu seras Stein que tu vas commencer véritablement à entendre. Parce que pour l'instant, tu es un ravat. Qu'est-ce que c'est un ravat? Rat, vat. C'est-à-dire, il lui manque les mochim de Gadlout dans la Kabbalah. Il est pour l'instant de l'ordre du 6. Il lui manque encore 4 sirotes essentielles, 3 en haut et la dernière, c'est son épouse. Donc la meilleure chavruta d'un homme, c'est sa femme. Parce qu'elle est capable de le contredire. Et à chaque fois qu'il va dire quelque chose, elle va lui mettre un écran face à lui et donc il va s'entendre. On va lui faire une réflexion des choses. Donc à partir du bête, j'entends le aller. Et maintenant, je viens de vous écrire un mot. Ba. Qu'est-ce que ça veut dire, ba?
Bien.
Qui vient? C'est au présent ou au futur? C'est au présent. D'accord? Ba. Alors pourquoi vous traduisez Olam Abba, le monde futur? C'est un monde qui vient, il est au présent. Donc qu'est-ce que c'est que le Olam Haba? C'est maintenant, c'est tout de suite, seulement toi tu n'es pas capable de l'entendre, c'est ça ton problème. Mais il existe lui. Tel Aviv est au présent ou au futur? Au présent. Mais si je veux maintenant y aller, il me faut une heure et demie. Donc pour moi ça devient du futur, c'est bizarre quand même. Mais c'est la même chose, le Olam Haba il existe maintenant, mais toi pour l'atteindre, tu as l'impression qu'il faut mourir. Il y a fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le temps n'existe même plus. Dans le Olam Abba, le temps n'existe même plus. Comment tu peux voir ta vie défiler en une seconde, en une fraction de seconde? Comment lorsque tu vas dormir et rêver, tu peux rêver une vie entière en même pas une fraction de seconde? Si je te mets des électrodes sur toi et que je te fais dormir, je peux savoir quand est-ce que tu rêves, puisqu'il y a une sinusoïde. Eh bien, cette sinusoïde, elle va bouger même pas une seconde. Et je te réveille, je te dis, dis-moi ce que tu viens de rêver. Oui, j'ai rêvé une vie entière. Mais comment cette vie entière, elle est rentrée dans une seule seconde? Eh bien, parce que dans le domaine du rêve, le temps n'existe pas. Eh bien, dans le Olam Haba, le temps n'existe pas, donc il est au présent, il est tout le temps. Seulement toi, pour l'atteindre, tu as l'impression qu'il faut mourir. Et c'est ça notre problème. C'est qu'on n'arrive pas à vivre notre monde intérieur au présent. Et surtout si tu vas dans un cours où on va te dire que le Olam Haba, tu ne peux pas le voir de temps vivant puisqu'il est au futur, c'est le monde futur. Donc tu attends de mourir tranquillement. Et si tu veux accélérer le processus, tu sautes. Rajvé Shalom.
C'est le
Olam Haba. Il y a fait mort. C'est-à-dire qu'il est au présent, mais il n'est pas visible. Alors que le Olam Hazé, c'est quoi? C'est celui que tu peux toucher maintenant, c'est-à-dire mon corps. Il est où ton Olam Haba maintenant? Ta Neshama. Elle est présente, elle est au présent, mais tu ne peux pas l'atteindre. Et ton Olam Hazé, c'est ton corps. Donc le Olam Haba et le Olam Hazé vivent ensemble. Seulement un est à l'intérieur et l'autre est comme une chemise. Mon Olam Hazé, ma peau en dessous, Olam Haba. Et si je suis capable d'ouvrir et de lever, eh bien je vais découvrir ce qui était caché. Donc je dois enlever un voile. C'est tout. Donc nous sommes dans ce monde pour enlever tous les voiles qui nous empêchent de voir la lumière. C'est tout. Et chacun de nous est rempli de voiles, plus ou moins épais. Et c'est pour ça que toutes ces forces négatives nous embêtent. Et on les appelle dans le langage de la Kabbale des clipotes, des écorces. Est-ce que tu as déjà vu une orange sur un arbre? Oui? Non. Tu as vu juste la peau. Donc tu as vu le Olam Hazé de l'orange. Quand est-ce que tu vas voir le Olam Haba de l'orange? Il existe déjà. Au moment où tu vas l'éplucher. Donc si tu roules et que tu vois des orangers, tu vois que des peaux d'orange. Tu dis, j'ai vu des peaux d'orange. Mais comme tu sais que c'est une seule et même unité, tu dis, j'ai vu des oranges. sur les arbres. C'est comme si maintenant tu me vois Yoël et tu te dis, ce soir j'étais à un cours de qui? De Yoël, d'accord? Mais qui c'est Yoël?
Le corps de Yoël.
Le corps? Parce que garantis que mon corps il est incapable de te raconter quoi que ce soit. C'est ma Neshama qui est en train d'utiliser mon corps pour parler. T'as déjà vu une bouche qui parle tout seul, toi? Je peux te mettre une bouche sur la table, ou allô? C'est mon être intérieur qui parle à travers la bouche. Eh bien, c'est la même chose. Donc, le Olam Abba parle à travers quoi? Le Olam Azé. Vous comprenez? Ta Neshama utilise ton corps pour faire les choses. Regarde, ma Neshama vient de me donner un ordre. Toi, tu ne le connais même pas. Moi, je viens de le recevoir à l'intérieur. Voilà, elle m'a demandé de lever le verre. Donc, j'ai envoyé un ange. J'ai dit, vas-y, faire immédiatement ce que la Neshama t'a demandé. Tu comprends comment ça marche? Mais la main toute seule, elle n'a rien fait d'elle-même. C'est un gant. Non, la Neshama et le Tefel, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. C'est la Neshama qui a donné un ordre à toutes les valeurs que tu as dans ton corps, y compris le Tefel, pour faire ça. Mais maintenant, si je pleure, c'est pas le Tefel, c'est le... Reges. Et donc la Neshama va utiliser une autre force de moi-même. Ben, parce qu'elle a soif, le corps a soif. Alors ça devient un imbécile. Il fait des actes. Non. Il croit que c'est sa Neshama qui lui donne des ordres, mais en réalité, il est manipulé par l'extériorité des choses. Comme aujourd'hui, quand tu vas acheter une voiture. On te rentre dans le garage, on te met une belle peinture bleue, rouge, bien, bien, bien. À l'intérieur, il y a un cabinet, mais tu ne vois pas le moteur. Et en réalité, tu as acheté une voiture deux jours après. Pourquoi est-ce que tu vois que l'extériorité? Tu veux te marier avec une femme, tu regardes que sa beauté superficielle extérieure. Tu ne vois pas son intériorité. Encore une fois, tu vas tomber dans le panneau.
Alors, peut-être
qu'on parle
d'un goy et un
Non, le goy aussi, il a une Neshama qui vient tout simplement d'un autre degré, différent, pas plus haut ni plus bas. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu est découpé en morceaux?
Non.
Ah. D'accord. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a insufflé, il a pris, c'est fini ou ça continue?
Non, ça continue.
C'est-à-dire? Ta Neshama, elle a quitté son panier et elle est rentrée en toi ou elle est encore là-bas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on avait la capacité de nous voir aujourd'hui avec un rayon laser, on verrait qu'on a un écoulement perpétuel de nos Neshamot. C'est-à-dire la matrice est restée dans sa source et chaque jour elle me fait couler sur moi comme une goutte, un goutte à goutte d'étincelle divine, et à chaque fois je grandis, qu'est-ce que ça veut dire je grandis? Je m'élargis pas, sinon je vais peser 2000 kilos. Je grandis, ça veut dire que mes désirs changent et évoluent. Eh bien, tout simplement que ta Neshama, elle est prise d'une autre racine divine. C'est tout. Levadaï. Quel?
Alors, comment vous dites, des fois on a du mal à réaliser ce que Neshama elle veut?
Parce que tu n'as pas de femelle, donc tu as du mal. Non, c'est un jeu de mots, mais tu as compris. Mâle, femelle, tu m'as dit j'ai du mal.
Ah.
Tu as compris? Donc le jour où tu auras une femelle, tu auras moins mal. Bien fait. Et j'ai dit tout à l'heure que même au moment où on est marié, il y a cette brisure, mais tu es dans un autre niveau. C'est pour ça que tu n'es pas à l'écoute. Si tu étais à l'écoute des voix et pas des sons, et tu n'entendrais plus. Et nous, on est à l'écoute des sons. C'est-à-dire quand le corps, il a faim, qu'est-ce que tu fais? Tu manges. Et est-ce que tu entends quand la Neshama, elle a faim? C'est plus difficile à entendre, d'accord? Et c'est ça que nous sommes demandés à faire. On exige de nous de commencer à entendre les demandes intérieures et pas seulement les demandes superficielles. Donc tout ce que je viens de vous dire, comment c'est relié au temple de Jérusalem, et c'est la même chose. Alors je reviens au chauffard. Le chauffard, est-ce que quelqu'un connaît les sons du chauffard? presque. Tkia, Svarim, Troua, Tkia. Ça, c'est la base. Qu'est-ce que c'est Tkia?
C'est le long.
C'est le long. Ça représente quoi? Il a fait l'entité première. Après, qu'est-ce qu'il vient immédiatement? Svarim. Qu'est-ce que ça veut dire Svarim en hébreu? Brisure, casser. Ah, ça commence à être intéressant. Et quel son ça va sortir? Tout. Qu'est-ce que je viens de faire? J'ai cassé l'unité première en trois morceaux. Est-ce que c'est la même chose? Oui, parce que d'après la halakha, la longueur des trois morceaux doit être la même que la longueur de la première. Vous saviez ça? Pourquoi en trois? Parce que l'homme a trois degrés d'évolution. Et si tu regardes les membres de ton corps, ils sont toujours en trois parties. Une, deux, trois. Et partout, c'est la même chose. Il y a toujours trois tiers. C'est très important. C'est pour ça que nous avons même dans l'année trois tiers. Shlosha, Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot. C'est pour ça que la Torah, elle aussi, elle a trois degrés. Torah, Nevi'im, Ktuvim. C'est pour ça que la Torah a été donnée par le troisième fils. Aaron, Myriam, Moshe. C'est pour ça que la Torah a été donnée le troisième mois. Nissan, Iyar, Sivan. C'est pour ça que la Torah se compose et le judaïsme de trois parties. Kohen, Lévi, Israël. C'est pour ça que ta journée est divisée en trois parties. Shacharit, Mincha, Arvit. C'est pour ça que ton Shabbat est divisé en trois parties. Et je peux continuer jusqu'à demain. Vous comprenez? Et c'est ça le secret. C'est qu'il y a trois phalanges, trois degrés. Même le petit doigt, je prends un seul doigt, lui aussi, comment ça se subdivise en trois? Incroyable, mais vrai. Donc nous avons en réalité le temps dans lequel nous sommes. Lui aussi, la Gemara nous dit, dans le traité de Sanhedrin, qu'il est divisé en trois parties. 2000 ans. D'accord? Ça commence à devenir intéressant. Ça veut dire que je dois savoir qu'il y a trois degrés. Premier degré, le degré où il y a tout qui est plein. Deuxième degré où il y a les brisures. Et comme les brisures ne se suffisent pas elles-mêmes parce que nous sommes tellement, tellement dans le détail que même ces brisures deviennent... C'est-à-dire qu'il est parti en cacahuète, là. Tu ne sais même plus qui est contre qui, comme on dit en hébreu. Mine de dix, tu ne comprends plus rien. Comment tu vois le monde? Comme un ensemble de détails. Tu n'arrives pas à comprendre le cheminement de l'unité première. Donc les sages, qu'est-ce qu'ils nous disent? De terminer toujours par quels sont l'unité qu'il y avait au début. Alors quelle est la différence entre l'unité du tout au début et le tout à la fin? Lequel est plus fort?
La deuxième.
Pourquoi elle est plus forte? Parce que maintenant tu as compris, parce qu'il y a une brisure au milieu, et maintenant cette brisure-là, qu'est-ce qu'elle t'a provoqué chez toi? Le désir de quoi? De revenir, de retrouver l'unité perdue. Avant de venir dans ce monde, vous étiez déjà marié, oui ou non? Oui. C'est marqué comme ça. Vous êtes un seul être, vous et votre femme, vous et votre époux. Seulement, quand vous êtes descendu dans ce monde, qu'est-ce qui s'est passé? Les deux Neshamot, paf, elles se sont éclatées. Un, il habite à Paris, l'autre, il habite en Afrique du Sud. Va les retrouver maintenant. Et si tu as un mazal dans ta vie, si tu fais un travail, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ta femme, elle fait un voyage là-bas, un ancien fait là-bas, tu es dans un hôtel, tu sais même pas, à la fin du monde, au Japon, et au Khadar Ochel le matin, tu la vois, elle te voit, et hop, vous vous retrouvez. Bizarre ça, quand même. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est la même chose, il y avait une unité, elle s'est brisée, et maintenant, on l'a reconstruite. C'est pour ça que le traité de Ketubot, il est avant le traité de Kiddushin. Pourquoi? Parce que le Get Gittin, le Get, il est avant le mariage. Il y avait déjà un Get. Quand vous étiez ensemble, vous étiez un. Après, il y a eu un Get. Il a dit Get out. Et maintenant, tu lui dis Come on. Et tu reviens. Donc, Tia, Svarim, Troa, Tia. Vous comprenez comment ça marche le monde? C'est la même chose au niveau de tout ce que vous allez faire. Quand madame va tomber enceinte, il n'y a qu'en, qu'en français qu'on tombe et en anglais. On ne sait pas pourquoi. On n'a pas besoin de tomber. On est bien, il faut être stable et tout. En hébreu, on rentre dans un nouveau degré. En français, il faut tomber amoureux, tomber enceinte, et il n'y a que dessus. Mais bon, on espère que cette suite, elle est justement pour reconstruire. Alors, quand la maman est enceinte, qu'est-ce qui se passe? Elle a un fœtus à l'intérieur de son ventre. Et ce fœtus-là, il y a marqué dans la Gemara qu'on lui enseigne toute la Torah. Vous saviez ça, non? Et quand il sort, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait oublier, encore une fois, le même système. Il avait une entité, on lui casse au moment où il sort, et qu'est-ce qu'il fait toute sa vie? Il essaie de revenir pour récupérer toute la Torah. Donc en réalité, c'est quoi l'étude? C'est une répétition de ce que j'ai déjà étudié. Donc comment on dit répéter en hébreu? Mishnah. Mishnah, Shnai. Donc la Mishnah, c'est pas la Mishnah, c'est la répétition, c'est la deuxième fois que j'étudie déjà. Tu comprends? Quel?
Vous avez parlé de
3 ou
vous avez parlé de
3? 3. C'est 3 divisé par 3. Donc il faut minimum combien de sons dans ce 9 sons. C'est une halakha. Parce qu'en réalité, ça te prouve que c'est jusqu'à l'infini. C'est-à-dire, fais attention. Le chauffard, il est en train de te dire, fais attention, quand tu rentres dans le domaine des détails, tu risques d'oublier l'unité. En hébreu, il y a une très très belle expression, rappelez-vous. Merov Aïsim, Loro Imetayar. À force de voir des arbres, tu as oublié que c'est une forêt. À force de voir des vives, tu as oublié que tu étais un peuple. Et c'est ça, malheureusement, dans ce piège-là, on tombe tous. Et on a l'impression que être juif, c'est un détail. Moi, je fais ma Torah, mes mitzvot. Avec l'accent français, c'est encore mieux. Tu auras une date. Okay? Ah, là, tu es arrangé, tu es super, tu es tranquille. Okay? Pas du tout. Si tu as oublié que c'est un peuple, tu peux faire toute la Torah et toutes les mitzvot. Tu n'as pas compris que c'était par rapport à la nation. Et c'est ça la Géoula, c'est de retrouver la notion de nation que nous avons perdue. Encore d'autres exemples, vous avez de cette unité qui se brise et qui après se reconstruit? Donnez-moi un exemple si vous vous rappelez de quelque chose. L'étable, Nachon, c'est-à-dire l'unité première, la brisure et après reconstruire. Bien fait. La Shoah, l'histoire du peuple d'Israël, on était dans l'unité, on a été Mefouzarim, comme dit Haman dans la Megillah d'Esther, et après on est revenu à la source. La conversion, la même chose. On était à l'intérieur, on est sorti, on s'est cassé la figure, on revient à la maison. Quoi encore? Nous. Un tailleur. Hein, mon père Zichrono Livracha était tailleur. Il était ici, mais il était ailleurs. Et quand on lui a apporté des tissus très, 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 très chers, vous savez qu'il y a des tissus qui coûtent 20 000 dollars le mètre. Ben, le type, il a intérêt à ne pas venir le lendemain chez mon père. Parce qu'il voit tout son tissu en morceaux, découpé avec des ciseaux. Il voit mon père, il dit, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as acheté un magnifique tissu. Il dit, mais c'est normal. Je suis en train de fabriquer un costume. Mais avant de fabriquer le costume, je suis obligé de le découper en morceaux. Pardon? Pour faire un collier, il faut faire fondre. Pour planter un arbre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut planter une graine, elle est entière. Et qu'est-ce qu'elle fait dans la terre? La graine, elle pourrit. Vous comprenez que tous les exemples de la vie, c'est ce midrash que je vous ai raconté tout à l'heure. C'est pas que Dieu nous dit qu'il a vu un temple qui a été détruit, qui a été reconstruit. Il nous dit, Moraï Verabota et mes enfants, sachez que votre vie, elle est fabriquée de cette manière-là. Et n'ayez pas peur au moment de la destruction, parce qu'en réalité, vous êtes sur le pas de vous reconstruire. Et c'est ça tout le secret de la Torah. Tout le secret de la Torah, c'est ça. Si vous avez compris cette clé, vous avez compris toute la Torah entière. Sur une seule jambe, en un seul coup. Sympathique, non? Vous avez gagné des années et des années. Mais il faut imprimer. Il faut rentrer. J'ai une idée dans la tête de me construire une maison. Au moment où je veux commencer à construire, qu'est-ce qui se passe? Je commence à tout disséquer en morceaux. La panique. Alors que dans ma tête à moi, dans mon cœur à moi, construire une maison, je la voyais déjà finie, tranquille, j'étais tranquille, j'étais peinard. Et au moment du début du travail, qu'est-ce qui se passe? Je me dis pourquoi j'ai commencé cette affaire. Tout est cassé en fait. J'ai une idée en tête, un cours de Torah. Au moment où je veux commencer à l'écrire, qu'est-ce qui se passe? Je découpe en morceaux. C'est bizarre, non? Tzadik gozer, v'akadosh boko mekayem. Donc le tzadik, quel est son rôle? De découper. Parce que sans découper, tu n'es pas capable de retrouver l'unité. Donc comment on dit par exemple couper en hébreu? Les sapers, ça parle. Donc le rôle de Am Israël, c'est les sapers. C'est Ilati et Saperu. Donc quel est votre rôle dans ce monde? C'est de découper cette unité pour la faire arriver dans ce monde de pluralité. Mais en réalité, vous parlez d'unité. Et je peux jusqu'à demain vous donner des exemples. C'est énorme. Toute la vie, elle est fabriquée avec ce rythme-là. Vous avez compris ça? Donc il y a un binyan, il y a un khorban, et il y a un binyan retrouvé. Alors je vous souhaite, Bezrat Hashem, de ne pas vous angoisser à chaque fois que vous traversez une petite chute. C'est tout simplement parce que vous êtes dans un étage supérieur. Et dans l'étage supérieur, on ne connaît pas encore les copains. On était en Kita Aleph, maintenant il y a de nouveaux copains en Kita Bet. Donc en Kita Bet, tu te dis, mais je suis paumé, machin. Quand vous avez fait votre alia, c'est la même chose. Vous étiez dans une certaine unité. Oh. Vous êtes arrivé ici. Oh. La panique totale, on se casse la gueule, machin. Ne vous inquiétez pas, vous allez vous reconstruire et devenir beaucoup plus élevé que ce que vous n'avez même pas rêvé quand vous étiez à l'extérieur. Donc vous n'avez pas à tomber dans une dépression. C'est ça le secret. Tout le secret, c'est ça. C'est de savoir traverser ce moment-là. Quand est-ce qu'on est sorti le plus riche d'Égypte? Au moment de la plaie des ténèbres. Imaginez-vous, Moshe Rabbeinu vous dit que la Géoula est très 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 proche. Et au lieu de voir la Géoula, qu'est-ce que tu vois? Du noir. C'est pas sympathique, hein? C'est comme aujourd'hui, on te dit, ouais, le Mashiach il est là, je te dis que le Mashiach il est là. Et qu'est-ce que tu vois, toi, dans la rue? Une panique totale. Des tristiers, il est où le Mashiach? De quoi tu me parles? De quoi tu me parles? Okay. Donc toutes ces unités, elles descendent dans ce monde, et c'est comme ça. Et les 22 lettres avec lesquelles j'ai commencé, bien, c'est les 22 joueurs de foot qui essaient de faire entrer une idée, un ballon, dans une cage. Qui arrive en réalité l'infini dans le fini. Bien fait. C'est pour ça que ce monde, il est dans deux. C'est pour ça que c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il y a un ballon et il y a une pluralité dans lequel tu dois faire. Et donc si tu filmes un stade du haut, qu'est-ce que tu vois? Un cercle et une droite. C'est tout le secret de Igulim Veyoser. Donc vous voyez, tout est basé. Et ils attendent la même chose. Hein. Le Goel. Ça s'appelle Goel. C'est la même chose. Ça s'appelle Goel. Goel. Magnifique, non? Exactement, c'est le bête de Bereshit. Donc il ne faut pas être bête. Et pour ne pas rester bête, il faut retrouver le halé. Toda Rabba.
Quand il y a un noyau qui a fouillé dans la terre, elle n'a pas donné d'arbre.